concerne la protection des enfants, l'utilisation par les employeurs des algorithmes, le bien-être, le nudging, tout ce que vous voulez. Donc voilà déjà un appareil pour vous donner un exemple. Alors, il n'est pas du tout sûr que ce sont ces normes-là qui vont prévaloir parce que l'ISO est aussi sur le coup. Moi je n'y connais pas assez. Les histoires de guerre de normes sont des histoires qui sont toujours compliquées. Mais enfin, à un moment, l'un des deux va gagner ou un troisième. Et vous allez me dire, mais non, parce que nous on va prendre des normes européennes. Sauf que la réglementation technique européenne prévoit que quand il existe déjà des normes globales, eh bien, il ne faut pas faire une norme européenne, il faut adopter une norme globale. Et c'est ainsi que vous allez avoir, ce n'est pas mon sujet d'aujourd'hui, mais c'est le sujet qui m'intéresse habituellement, c'est comme ça que vous allez avoir un droit global de l'algorithmique, puisque, au fond, il y aura une référence de l'Union européenne via les comités techniques à des normes globales, exactement comme ça existe dans d'autres domaines, comme ceux de la comptabilité, etc. Donc, voilà comment ça va se passer. Et cette très très longue introduction, je suis déjà à la moitié de mon temps, mais pour vous montrer que, ça me semble fondamental d'un point de vue pragmatique, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de se poser des questions. On va se poser maintenant des questions extrêmement spéculatives, mais que ces questions extrêmement spéculatives sont directement liées à des problèmes extrêmement pratiques qui vont se poser, qui risquent de transformer considérablement les métiers juridiques et aussi de poser évidemment certaines difficultés par rapport aux garanties ou au type de rationalité qui nous sont traditionnellement chers. Alors, j'en viens au cœur de l'affaire, où je résumerai d'une formule, d'un slogan, l'idée c'est on va passer d'un syllogisme judiciaire à l'idée d'un calcul de fonction mathématique. C'est un peu caricaturé, mais vous verrez dans les idées que je vais développer que c'est un bon guide. Et au fond, on peut le dire, si on voulait le problématiser, on peut dire que la logique juridique, elle joue tout entière sur la tension entre le général et le particulier, ou même le général et le singulier. C'est ça le problème, c'est un problème qui est posé depuis la rhétorique d'Aristote, c'est comment on applique une règle générale dans un cas particulier, avec à la fois la nécessité que la loi reste une et donc que l'application soit uniforme, et la nécessité de la justice, ou ce que Aristote appelle l'équité dans ce contexte-là, et qui fait qu'il faut au contraire adapter la règle générale au cas particulier. Donc, quelles que soient les solutions qu'on donne à ce problème dans toute l'histoire de la raison juridique, on se retrouve face à cette tension, et au fond, vous allez voir que les algorithmes, d'une certaine manière, alors c'est pas forcément leur problème, mais elles ont, parce qu'il y a justement une sorte de suppression de la tension entre le général et le particulier. Je vais peut-être laisser ce point-là, qui est particulièrement abstrait pour la discussion, mais j'y reviendrai très volontiers, si je lance quelques idées et puis on en discute ensemble. Et les idées que je veux lancer sont au nombre de trois. La première est paradoxale. C'est l'idée que les algorithmes judiciaires sont de nature à enrichir l'argumentation juridique. Évidemment, elles veulent la supprimer. C'est comme Leibniz. Il ne faudra plus... faudra plus que deux avocats débattent sans fin devant le juge. Leibniz avait des fonctions judiciaires dans le cadre de son activité de conseiller. Mais quand on aura un différend, eh bien, les deux avocats dont il rêvait et qui vont enfin arriver maintenant, l'année prochaine, s'installeront à table et diront simplement « calculemus, hein, calculum hein. ». Et donc, l'idée est bien de supprimer la discussion contradictoire et je pense au contraire que, en réalité, on va l'enrichir. Deuxième élément, c'est les promoteurs de l'algorithmique juridique et judiciaire disent que on va avoir que la mise en place de ces outils va permettre de réduire le bruit, la dispersion des décisions, etc. Je voudrais faire un argument ici contre un livre qui est sorti spécialement sur ce point, qui est le livre Noise, dont je parlerai dans un instant. Et troisièmement, là, on retrouve un paradoxe, hein, qui est que le calcul de fonctions va créer, ou risque de créer, c'est une hypothèse que je risque devant vous, une inégalité totalement généralisée. Je m'expliquerai donc sur ce paradoxe. Vous avez compris que ces hypothèses sont en fait des moyens, trois moyens de lancer les discussions et que il y a certainement d'autres dimensions. Alors, on sait que le syllogisme judiciaire vient de la formulation pour le droit pénal de Beccaria, qui a ensuite été étendu très vite par les théoriciens de la Révolution à l'ensemble des matières du droit, et même on a même prétendu faire des syllogismes politiques. Et vous connaissez bien cette technique, c'est une dans laquelle la majeure énonce la règle générale, c'est la loi évidemment dans l'idée révolutionnaire, la mineure les faits tels qu'ils résultent. Bien sûr de l'instruction du dossier, des preuves, de la procédure d'établissement des faits par les preuves, et que le rapprochement de la mineure et de la majeure nous donne de manière implacablement logique la solution, la décision, etc. Donc, c'est une manière de résorber tout à fait le débat contradictoire. Alors même que celui-ci se généralise après la Révolution, mais dans le modèle logique, hein, il n'y a pas de contradiction, il y a un calcul à faire par le juge. Hein. Vous voyez bien que dans ce modèle-là, les avocats n'ont aucun rôle, les plaidoiries ne servent à rien, etc. Hein, c'est un pur calcul. Mais donc c'est un modèle qui ne correspond pas, qui devient, et pour longtemps, un guide, alors même qu'il ne correspond pas du tout aux pratiques juridiques qui, au contraire, vont développer un contradictoire qui était beaucoup plus problématique sous l'Ancien Régime. Bon. Alors, on sait bien que ça ne se passe pas comme ça, mais je ne sais pas ce que lisent les informaticiens, les ingénieurs, etc. Moi, j'ai assisté à des colloques d'intelligence artificielle très pointus à Paris, avec les gens du monde entier, des top japonais, américains, trucs français, bien entendu. Et eux, ils sont toujours là-dedans. Hein. Donc, il faut trouver une méthode de calcul. Donc, eux voient. De manière que j'oserais qualifier de naïve, en tous les cas pour nous juristes, eux voient donc une application algorithmique, c'est quelque chose dans lequel on va rentrer une situation et le juge robot, si vous voulez, va alors donner la solution exacte. Alors, bien entendu, nous savons que ce n'est pas comme ça que ça se passe et si je puis évoquer la mémoire une fois encore de mon maître bruxellois Perelman, la démolition de ce syllogisme judiciaire en disant que c'est un antimème, c'est juste une présentation des choses, mais que l'essentiel du travail, c'est justement la formulation des prémices, les opérations de la qualification des faits et de l'interprétation de la règle, et que cela se fait non pas par la logique, mais par l'argumentation, par le développement de moyens dans un cadre contradictoire qui est ensuite arbitré par un juge qui doit prendre sa décision et la motiver lui-même face à ses propres interlocuteurs. Je ne reprends pas cette théorie extrêmement connue. Et donc, sur cette base-là, Je pense que les amis qui font de... Enfin, les amis, non, pas forcément mes amis. Les ingénieurs qui montent ces applications d'intelligence artificielle se trompent de clients. Se trompent de clients parce que ce qui va se passer, de toute façon, il y a des aspects financement là-dedans aussi, ce qui va se passer, c'est que effectivement la numérisation de l'ensemble des décisions judiciaires qui a été décidée par la loi en France qui va s'établir. Donc toutes les décisions sont disponibles de manière numérique.